D'abord, vous vous cassez la jambe. Alors, vous regardez par la fenêtre. Vos yeux sont tout injectés. Vous avez dû regarder par la fenêtre pendant des heures.
Vous ne croyez pas que l'un de nous pourrait changer?
D'un seul coup, ça me semble impossible.
Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à Fenêtre sur cour. Cette émission est réalisée en partenariat avec la Cité de la CAF et avec le soutien de la Fondation de France. Vous êtes ici avec
Guylaine, bonjour.
Christine.
Maddy, bonjour.
Annie.
Et Micheline. Et nous sommes très heureux de vous retrouver.
Alors aujourd'hui, nous ouvrons plusieurs fenêtres. D'abord, la rencontre du mois, c'est avec Monsieur Michel Dumelard, qui est un bénévole actif à l'organisation du Rhône-Alpes Isère Tour. Et notre entreprise innovante du mois sera Monsieur Richard Durand, qui est exploitant agricole et producteur laitier dans le GAEC des Vaches Heureuses à Saint-Victor-de-Cessieux.
Aujourd'hui, Monsieur Dumelard se joint à nous en studio. Nous le recevons à l'occasion du Tour Rhône-Alpes Isère Tour, course internationale qui se déroule du 15 au 18 mai 2014. Monsieur Michel Dumelard, que nous connaissons peut-être un peu plus sous le nom de Papy.
Je suis Papy parce que Tour cycliste Rhône-Alpes Isère Tour, je suis le premier à être Papy, tout simplement. Et quand j'ai eu ma petite fille il y a 14 ans, j'ai dit, ben, j'ai une petite fille, tout le monde m'a dit, ben, t'es le papy.
Qui est papy plus précisément, à part un grand-père qui apparemment aime beaucoup sa petite fille?
Je suis papy, j'adore mes petites filles. Excusez-moi, mais je... Et mon coup de cœur, c'est quand je suis avec mes petites filles, je ne sens plus de douleur.
Donc papy, vous semblez bien engagé dans le bénévolat. Alors depuis quand et puis pourquoi?
Je me suis engagé dans le bénévolat avec le don du sang. Parce que en 64, j'ai été opéré d'une péritonite. J'ai eu besoin de sang. Et si vous avez connu Madame Bouvard a fait paraître un article sur le journal un jour qu'elle voulait le don du sang, elle cherchait du sang au groupe O+. C'était mon groupe. Je suis parti donner mon sang. Ce jour-là, j'ai donné mon sang et je travaillais avec Monsieur Longin. Je ne sais pas si vous l'avez connu, Guy Longin, le cousin de Monsieur Oudot. Qui m'a dit, viens avec nous, au don du sang, tu verras. J'ai dit, don du sang, bon, je vais bien y aller. Je suis rentré au bureau avec M. Longin, il y avait M. Riquet aussi, puis Mme Bouvard, qui était présidente. De là, ben, il faut qu'on a le pied dedans. C'est le bras, c'est l'autre jambe, c'est l'autre bras. Et voilà. Et en 93, donc, on a eu la dame qui était présidente, là, est partie, et on m'a dit, ne cherche pas, on te met président. Je suis été président, c'est là que je suis parti, au bénévolat. Alors, j'ai été président du donneur de sang de 93 à 2009, et au Tourneur Isère, Rhône-Alpes Isère Tour, je suis là-haut depuis 22 ans. Je suis au Tourneur Isère. Et en plus de ça, je m'occupe des virades aussi, de l'espoir.
Et qu'est-ce que vous trouvez dans le bénévolat? Qu'est-ce que ça vous apporte?
Ce qui m'apporte, ça m'apporte le contact avec les gens. Le contact avec les gens, je connais du monde, je me cache pas, je suis assez populaire. Quand je rencontre quelqu'un, je suis content de lui parler. Alors, j'aime bien. Bien le bénévolat, et autour cycliste, je peux aller à la Verpillière, je peux aller à Saint-Quentin, moi je suis de Pont-de-Beauvoisin, je peux aller à Pont, je peux aller à la Tour du Pin. Tout le monde dit « Ah le papy !» Voilà. Ben, je suis rentré au Tour, Rhône-Alpes Isère Tour, donc c'était Tourneur Isère à ce moment-là, avec le don du sang. Parce qu'au Tourneur Isère, il y avait la caravane publicitaire. Et Michel Beau venait donner son sang, il m'en avait parlé du tour. Alors j'ai dit, ben, si on peut aller dans la caravane, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Pendant 2 ans, Lyon nous a prêté une voiture spécialement pour le don du sang. J'avais même fait un mannequin qu'on avait fixé sur la voiture. De là, je me suis bien accordé avec Michel Beau, le patron du Tourneur Isère. Et... On s'est accordé, comme on s'est dit l'autre soir, on est deux frères. Et quand il a besoin, il m'appelle. Moi, quand j'ai 5 minutes, je monte à Sainte-Blandine pour le voir, ou s'il y a quelque chose à faire. Je suis tout content d'être là-haut. Et puis, une chose, je me suis fait opérer, vous voyez, il y a 6 ans, j'étais près du cœur. Si j'avais pas eu le cotni pour me mettre d'aplomb. Oui, c'est le cotni. Nous, on dit, c'est le cotni, c'est Ronald Pisertour, c'est pareil. Si j'avais pas eu le Ronald Pisertour pour me mettre d'aplomb, c'était une remise en forme, là-haut. Vous pouvez en parler à ma femme. C'est vraiment, pour moi, une thérapie, voilà. On s'accorde bien, on rigole de bons moments. On est tous du coin. Si on se voit pas, on s'appelle ou... Hein, mais il n'y a pas de problème, on est de bons copains. Ouais.
Expliquez-nous un petit peu comment fonctionne cette association, parce que je pense que c'est une association, sa naissance, ses origines, quelles sont les finalités, ce que vous organisez, expliquez-nous tout ça.
Alors là, moi je vais vous dire une chose, je m'occupe, je suis régisseur là-haut du matériel. Je m'occupe du matériel, je m'occupe des blousons des bénévoles, blousons de motard. Quand la course est finie, je les récupère là-haut avec le camion, je les emmène au lavage. Quand le lavage est fini, je retourne les chercher, j'y mets en place. Je les mets en place avant la course, là, et ben, il y a 15 jours. J'ai tout trié, les blousons, par taille, par couleur et tout. Je comptais tous les polos, j'ai compté plus de 200 polos. Et je m'aide aussi à faire des banderoles. C'est du travail qu'on fait tout le temps, ça. Et on prépare les banderoles, on prépare les tables, comme là, jeudi et vendredi, on va aller préparer les tables, les fauteuils, tout ce qui est pour le tour.
Oui, ce sont des travaux qui paraissent un peu de la manutention, mais ils se voient, ce sont des choses qui se voient à travers d'une course. On voit bien que les bénévoles ont des vêtements, tous habillés pareils, et c'est ce qui fait aussi un peu le charme de la course. Donc c'est un travail qui est à faire et qui est intéressant.
Oui, mais c'est un travail bénévole. Bon, moi je suis peut-être de l'ancienne école, et vous en avez beaucoup qui vous disent « Ah ben on irait bien, est-ce que ça paye bien ?» Hein? Et c'est comme au domicile, des fois on dit plus à des personnes, il faut venir nous aider. Au bénévole, en bénévole. Moi, bon, depuis que je suis au don du sang, je suis bénévole. Hein. Il y a beaucoup de gens qui nous disent, on viendrait bien, mais ça paye bien. Bon, ben, vous faites du bénévolat, c'est pas pour vous faire payer. Je charrie mes affiches pour le don du sang, on charrie quand même plus de 300 affiches. On a deux dames qui font la ville, moi je fais toutes les extérieures. Mon essence, je ne me la fais pas rembourser. C'est bénévolat, puis c'est tout. Et bon, partout où je passe, le don du sang. Je monte à Four, je vais à la mairie, je suis reçu bras ouverts parce que je donne des affiches pour le don du sang. À la fleuriste, c'est pareil. Et justement, en portant mes affiches pour le don du sang, je passe dans des magasins et je leur demande des lots pour les virades de l'espoir. On me dit, si c'est toi qui nous le demande, pas de problème. D'ailleurs, Madame Marin me l'a encore dit l'autre soir, il y en a qu'un qui amène des gros lots, ben c'est le papy. Alors, le bénévolat, c'est ça. Et il faudrait que beaucoup de gens s'y mettent au bénévolat. J'ai même ralenti à présent, vu que mon opération du cœur, j'ai dit au docteur, quand je me suis fait opérer, j'ai dit au docteur, je bois pas, je fume pas. J'ai jamais touché une cigarette de ma vie. Je fais pas d'excès. Et j'ai eu 3 artères, ils m'ont changé 3 artères, qui étaient usées et bouchées. Ah, il m'a répondu, mais monsieur, faut pas vous faire de soucis. C'est le stress, vous en faites trop. Bon, ben, vous en faites trop, j'étais obligé de ralentir. Mais vous savez, on ralentit un moment. Et quand ça va mieux, ben, ça repart. Ça, c'est comme une roue, hein. Vous l'arrêtez, mais au bout d'un moment, elle repart.
Notre pause musicale, le choix s'impose naturellement avec Yves Montand et sa célèbre bicyclette. Juste après, nous retrouverons Papy.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien.
et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette.
Alors, vous êtes toujours sur Couleur FM, à l'écoute de l'émission Fenêtre sur cour. Alors, après cette petite incursion à bicyclette dans le passé, on va revenir à la bicyclette maintenant. Dites-moi, papy, combien de temps en avance il faut s'y prendre pour préparer une telle course? Parce que ça a l'air d'être assez compliqué et important.
Nous, on prépare depuis le début janvier. Pour les 4 jours, on compte plus de 200 bénévoles. En amont, on doit être une bonne vingtaine, 20, 25. Tous les samedis, au total, on est bien 25.
Alors, je suppose que dans ce genre de manifestation, la sécurité est quelque chose de très, très important.
La sécurité, ben, vous avez la sécurité déjà des bénévoles. Vous avez une entreprise spéciale comme Thierry Vanel qui fait la sécurité avec ses chiens, là, et qui a, comme cette année, qui a 100 personnes. Ben, c'est sous son ordre.
Ils interviennent où?
Sur les parcours.
Tous les croisements.
Tous les croisements. Et vous avez la gendarmerie aussi. Et puis, la sécurité, vous avez toute une équipe de motards. Une association de motards qui fait la sécurité aussi. Parce qu'il faut la sécurité, il en faut au début, au milieu et à la fin. Le patron est sur la course. Hein.
Je suppose qu'il y a une équipe médicale prête à intervenir.
Oui, un docteur qui suit toute la course.
Comment vous préparez un itinéraire? Vous allez voir les villes, les villages, les mairies, les...
Ah ben ça, c'est pas moi qui m'en occupe de ça, c'est un monsieur qui s'en occupe. Vous voyez, tous les itinéraires sont là, il y a toutes les étapes. Mais là, il les prépare au moins plus de 6 mois à l'avance. Plus de 6 mois, il va voir les maires, il va voir dans les communes et tout. Et dans les communes, il faut préparer aussi l'électricité et tout. Ça, c'est un gars qui s'occupe d'électricité. Pour brancher tous les postes, tous les camions de réception et tout.
Quelquefois, vous avez des refus de la part de communes. On ne veut pas que le tour passe ici. On vous dit non.
Ça arrive. Ça arrive. Une année, on a une commune qui nous a interdit de passer parce que c'était le jour de l'Ascension. Le jeudi de l'Ascension, ils n'ont pas voulu accepter qu'il passe. Et là, cette année, la course, elle est du 15 mai au 18 mai. 4 jours.
4 jours.
4 jours complets. La première étape, elle est d'Écloses Badinières Mairier. Mais Écloses Badinières Mairier, elle va passer par Biol, Chabon, Oyeux, Charavine, Saint-Jean-Valden, Col des Mines Martyrs, Les Échelles, Entre-deux-Guiers, Saint-Christophe-sur-Guiers, Saint-Pierre-de-Genebrose, La Bauche, Attignan-Saint, Ils redescendent sur la Bridoire, de Messin, Belmont-Ramenais, Saint-Denis-sur-Lier, Eust, Romagneux, Les Abrets, Fétilleux, Saint-Ombrin, Vieille-sur-Bourbre, Saint-Dandine, voilà. Doissin, Passage, et ils arrivent à Mérier, en passant par Panissage, Montagneux, Virieux, Saint-Victor-le-Haut. Départ est à 14h15, mise en place. Et l'arrivée à 17h35. Je lance un appel à tous les gens qui peuvent venir sur la route pour encourager les coureurs. Parce que bien souvent, on passe à des endroits, il n'y a personne. Les autres étapes, c'est à Colombier. Une boucle, mais qui va très très loin. Alors le départ est à 13h15 et l'arrivée est à 17h10. Crémieux, Solimieux, Bayard, Bouvesse, en bas. Ils font plutôt l'un et là. Ah, monsieur, ils vont jusqu'à Blais. Oui, ils reviennent à Morestel. Ils reviennent sur Chozeau, après. Ils montent sur Colombie-Saunieu. Deuxième jour, ça. Le troisième, Saint-Maurice-l'Exil. Alors là, ils montent dans le Beaujolais, là. Et la quatrième étape, c'est Charvieux. Départ arrivé. 11h45. Et l'arrivée, c'est à 15h30.
Je voulais savoir combien de coureurs ça concernait et quel dénivelé vous aviez sur les courses en général. Vous savez, ça?
Je peux vous dire, cette année, il y a 20 équipes de 6 coureurs. 20 équipes de 6 coureurs. Et il y en a qui viennent quand même de loin. Il y en a qui viennent du Japon, Brésil. Oh là, j'ai préparé des drapeaux là, avant-hier, à samedi. On doit être au niveau du critérium du Dauphiné.
Est-ce que ce sont vraiment des amateurs? Parce que maintenant, je veux dire, pour participer aux courses cyclistes, il faut vraiment beaucoup s'entraîner. Donc il faut quand même un peu de temps.
Il y a des amateurs et des professionnels.
Ah, il y a les deux.
Ah oui. L'année passée, on avait Thomas Vauclair. C'était un professionnel, il faisait le Tour de France.
J'imagine qu'il y a un peu d'injustice, parce que faire courir des professionnels et des amateurs, j'imagine que les professionnels sont sur le podium tout le temps.
Non.
Pas nécessairement.
Ah non. Et vous avez des amateurs qui, vu qu'ils courent avec des professionnels, sont...
Voilà. Ils sont tirés vers le haut.
Voilà.
Parlez-nous d'un sujet qui est tristement d'actualité, le dopage. Bon, ce sont des courses amateurs, mais vous avez dit qu'il y avait quand même quelques professionnels. Je pense que le problème du dopage est présent même dans ces courses. Est-ce que vous avez un contrôle?
Ah oui, il y a un contrôle. Ça, c'est sûr. Il y a un camion. Il a un camion spécialement pour le contrôle d'antidopage. C'est M. Bourg qui a le camion qui est... Bon, il y a des docteurs dedans, sûrement. Ah ben, le camion, il est à toutes les arrivées. Hein. Ah, oui. Ouais, c'est un camion qui reste d'ailleurs à Sainte-Blandine. Hein.
Donc, il y a une étape. Par exemple, ils arrivent à Saint-Maurice-l'Exil. Est-ce qu'ils sont accueillis? Est-ce qu'ils sont... Ils dorment à Saint-Maurice-l'Exil? Ils mangent, ils dorment? Ils prennent leur petit déjeuner le matin et ils repartent de Saint-Maurice-l'Exil?
Non, ils sont des coureurs loges à Mercure.
Donc, chaque fois, il y a des transports en car, j'imagine, ou en voiture
En voiture aussi, parce qu'ils ont tous les coureurs ont leur voiture publicitaire.
Donc, ils viennent à l'hôtel Mercure, ils se reposent, voilà. Et le lendemain, on les ramène au départ. Ça fait beaucoup d'allées, voilà. Venues.
Et pour les bénévoles, c'est pareil? Vous dormez à l'hôtel Mercure?
Non. Non. On rentre chez nous quand même.
Et donc là, c'est pris en charge par les organisateurs de la course.
Oui, bien sûr. Ils payent une inscription, oui. Voilà,
donc, voilà. Oui. Est-ce qu'il y a une caravane publicitaire qui précède la course?
Nous avions une caravane publicitaire, oui. Mais on l'a supprimée parce que ça coûtait trop cher.
Vous êtes à l'arrivée. Vous le dites. Donc, comment ça se passe, cette arrivée? Ça doit être festif, ça doit être la joie, ça doit être... Allez, parlez-nous de ça un peu.
À l'arrivée du Tour, il y a déjà beaucoup de monde. Il y a un camion podium et c'est animé par Pascal Denis avec ses danseuses. C'est la fête. Voilà, après, il y a au village, alors bon, il y a à manger et à boire.
J'imagine qu'on remet un maillot à celui qui arrive. Quelle couleur il est? Est-ce qu'il est jaune comme pour le Tour de France?
Il est pareil. Pareil, c'est le même maillot. Il y a le maillot de montagne, le maillot jaune. Vous avez le maillot à poids, comme au Tour de France, pareil. Hein. Vous avez 5 maillots. Et puis, vous avez celui qui gagne le Tour a une coupe.
On nous a parlé d'un dossard vert. Alors, qu'est-ce que c'est que ce dossard vert?
Alors, le dossard verge, c'est le dossard est attribué au coureur qui est jugé sur son approche par rapport au respect de l'environnement, pour notre côté développement durable.
Est-ce qu'on sait pourquoi le maillot jaune est jaune?
Mais normalement, le maillot jaune, en ce qui concerne le Tour de France, il a pris cette couleur parce que le Tour de France était patronné par un journal qui s'appelait L'Équipe et qui publiait sur des feuilles jaunes, je crois, il y a très longtemps, 1905.
Pour terminer, une anecdote.
On était, il y a 2 ans, on était au col de Lyon, dans le Pilat. Un col formidable. Nous sommes arrivés là-haut, un brouillard a coupé au couteau, il faisait pas chaud. Et une dame une personne âgée, elle avait 86 ans, elle tenait un restaurant toute seule là-haut, et avec elle. Et c'était au moment des élections, vous m'excuserez de parler des élections, mais au moment des élections, elle nous dit, ça a voté comment chez vous, à droite ou à gauche? Bon, on lui dit comme de partout, ça a voté. Elle me fait, ah ben, vous savez messieurs, je vous dis une chose, j'ai 86 ans, que ça soit la droite, la gauche ou le centre, vous les prenez, vous les mettez dans un sac, vous tapez contre le mur, ils font tous le même cri.
Merci papy. Et on rappelle les dates de la course 2014. Elle se déroulera du jeudi 15 au dimanche 18 mai 2014 et ce sera le Rhône-Alpes Isère Tour. Dans quelques instants, nous allons parler d'un nouveau sujet, le reportage sur les vaches heureuses.
Vous êtes sur Couleur FM et à l'écoute de l'émission Fenêtre sur cour. Alors avant de chausser nos bottes pour partir voir les vaches, eh bien nous allons écouter le yaourt à l'abricot de Mathieu Foulumion.
À l'école déjà, ma confiance en déroute succombait chaque fois que l'on faisait un foot. Je revois les capitaines, Alexandre et Philippe, c'était toujours les mêmes qui faisaient les équipes. Leurs doigts nous désignaient, presque cérémonieux, et chaque fois j'espérais pas être le canard boiteux. Mais c'était toujours moi, le dernier à l'appel. Je me rappelle même une fois entendre ces mots cruels. Nous n'étions plus que deux, les yeux sur nos chevilles, quand Philippe dédaigneux lança:
ah ben non, on vous le laisse, on prend la fille.
C'est pas terrible comme sensation d'être un yaourt à l'abricot, celui qui reste seul dans le frigo, ni dégueulasse, ni vraiment bon, mais sans intérêt ni saveur, n'inspirant même pas le mépris juste qui ne fait pas envie et que l'on prend à contre-cœur. Tard, il y a eu le collège, j'avais les potes en or, sauf que le même manège se répétait encore. Plus de foot, plus d'équipe, mais bien une sélection, c'est juste que les arbitres choisissaient en jupon. Aussi, c'était pas aisé de me rendre à l'évidence que rien n'avait changé depuis ma petite enfance. Elles venaient toutes me voir, au début j'y croyais, je retrouvais l'espoir de ne plus être le boulet. Mais c'était pour savoir comment lui la trouvait, et pour que je leur donne rancard. Pour chaque coup arrangé, si j'avais pris 10 balles, je serais le PDG d'une agence matrimoniale, tellement je me serais fait thune. C'est pas terrible comme sensation d'être un yaourt à l'abricot, celui qui reste seul dans le frigo, ni dégueulasse, ni vraiment bon, mais sans intérêt ni saveur, n'inspirant même pas le mépris juste qui me fait pas envie et que l'on prend à contre-cœur. Aujourd'hui j'ai compris que je n'étais pas tout seul à vivre comme un banni et pour ceux qui le veulent. J'ai créé récemment l'amicale des rebuts, un cercle de transparents invisibles à l'œil nu. Entre nous c'est pas pareil, on se distingue, on se voit, on se donne des conseils tous ensemble, on y croit. On fait même des jeux où y'a que des capitaines. Bon pour l'instant on est que deux, mais on veut faire une chaîne. Rejoignez-nous, les salsifis, les croutons de pain dur, les navets, les tous ceux qui ne font pas envie, qui n'inspirent aucun intérêt. pas terrible comme sensation d'être un yaourt à l'abricot. Celui qui reste seul dans le frigo, ni dégueulasse, ni vraiment bon, mais sans intérêt ni saveur, n'inspirant même pas le mépris juste, qui ne fait pas envie et que l'on prend à contre-cœur.
Très belle chanson. Aujourd'hui, nous avons chaussé nos bottes et nous partons au pays des vaches heureuses, à quelques kilomètres de Bourbois-Jallieu, à Saint-Victor-de-Cessieux, en pleine campagne printanière. Nous sommes accueillis par M. Richard Durand, responsable d'un GAEC.
J'ai 53 ans et j'ai toujours fait ce métier de producteur de lait, d'abord avec mes parents en association, et puis après 5 années seul. Et donc, c'est une charge de travail telle que je cherchais une association, ce que j'ai trouvé donc en 2005. Donc, deux autres fermes se sont associées avec moi pour constituer le GAEC, c'est-à-dire Groupement Agricole d'Exploitation en Commun, les Vaches Heureuses, parce que je suis passionné de vaches et mes associés aussi. Donc, mes associés sont deux anciens stagiaires à qui j'ai proposé, pour l'un, de reprendre une ferme à 4 km et pour l'autre, d'amener la ferme de ses parents, puisque ses parents arrivaient à la retraite. Donc, en 2005, on démarre... une ferme avec trois fermes moyennes, donc ça constitue une grosse entité de 200 hectares et d'une centaine de vaches, avec environ un quota laitier de 900 000 litres de lait à produire par an. Au même moment, même un peu avant, vers 2000-2002, je m'étais mis à faire un peu de transformation fromagère en fromage blanc, un peu par hasard. Ça m'a plu et j'ai senti qu'il y avait un marché à prendre. Et j'ai développé cette gamme de produits par des yaourts, du beurre, la crème. Et on est arrivé maintenant, là, en 2014, à transformer 500-600 litres de lait par jour. Et on a embauché 4 personnes dans la fromagerie. Et donc, ça se développe d'année en année, quoi. On répond à une demande, on livre dans une zone entre Lyon et Pont-de-Beauvoisin. On est dans une zone isolée de la commune. Donc c'est à l'avantage où on est bien tranquille pour faire notre métier. On n'a pas de trop de voisins, ni de route. Par contre, pour vendre des produits transformés, il faut aller dans les magasins pour les livrer. Donc ça a tout de suite été ma politique de livrer au magasin par un véhicule équipé de froid et d'être un peu au service de la demande, suivant si c'est un petit magasin, un restaurant, des gens qui font les marchés, un supermarché, des hypermarchés, voilà.
Donc en même temps, vous êtes commercial, quoi.
Tout à fait, c'est un deuxième métier qui me plaît bien, parce que c'est d'abord produire ce que les gens consomment, donc il faut faire ce qui se vend chez nous, et puis s'adapter au niveau prix, faut séduire les magasins pour rentrer, quoi.
Parlez-nous de vos produits, tout ce que vous produisez, tout ce que vous proposez à la vente comme produit.
Donc on fait que des produits laitiers frais. Il n'y a pas de fromage sec. Le principal produit, c'est le fromage blanc en faisselle, donc de 120 grammes, au lait cru, par emballage de 4, 6 ou 12. Ensuite, on a toute une gamme de yaourts, qui va du yaourt nature au yaourt brassé aux fruits, en passant par les aromatisés. Donc les brassés aux fruits, on rajoute de la crème et on achète une purée de fruits qu'on brasse à froid. Donc c'est des yaourts brassés à froid, soit en petits pots de 125 grammes, soit en pot de 1 kilo. Ça fait déjà 2 ans qu'on a développé ces pots d'un kilo qui sont moins chers à fabriquer. Donc on touche une autre clientèle et ça marche pas mal. On a aussi donc les yaourts aromatisés, là il n'y a pas de morceaux de fruits. Et on n'a que 3 arômes, citron, fraise et vanille. Alors que pour les brassés aux fruits, on a 6 fruits plus pépites de chocolat. On fait du beurre aussi, donc au lait cru. Il marche bien mais il n'a pas une bonne rentabilité pour nous. On vend de la crème aussi en petits pots, grands pots ou en grande quantité pour faire des boudins par exemple. On vend aussi des crèmes dessert par 4, dans un petit panier de 4 où on a vanille, café, caramel et chocolat. Bon, ben là, c'est des flans. Hein. On a un fromage à tartiner à y fines herbes comme du boursin, mais un peu moins fort. Puis, on a une petite gamme de crèmes glacées qu'on vend principalement à la ferme. Pour fabriquer un litre de lait, il faut qu'il y ait 600 litres de sang qui passent par la mamelle. C'est pour ça qu'il y a une énorme veine sous le ventre, vous la voyez, la grosse veine. On appelle ça la fontaine de lait. C'est un tuyau énorme. Hein. Elles ont une cuve de fermentation qui fait 250 litres. Et notre vrai métier, en fait, nous, producteurs de lait, c'est de bien trouver le réglage, de trouver le bon réglage de cette cuve de fermentation. Parce qu'en fait, c'est tous des micro-organismes qui mangent ce qu'on leur donne. Et il faut respecter des équilibres entre les glucides, les protéines. Et surtout aussi, il faut respecter la rugosité de la ration pour que la vache rumine. Parce qu'en fait, la grande différence entre les porcs, les monogastriques et les ruminants, c'est qu'il y a, la panse est constituée de quatre parties et ça doit bouger sans arrêt pour que ça puisse marcher, ça fonctionne comme ça. Et il n'y a pas très longtemps que j'ai appris d'où vient la rumination dans les animaux. En fait, en Afrique, les antilopes, elles sont aussi des ruminants. Mais pour pas se faire manger par les prédateurs, les antilopes, elles mangent une grosse quantité d'herbe, puis après elles vont se cacher dans un coin et l'herbe est recyclée dans la panse. C'est pour ça que les vaches, c'est pareil. Il faut qu'il y ait rumination. C'est-à-dire que les aliments sont dégradés doucement dans la panse. C'est pas comme les porcs qui, eux, mangent une ration qui peut être très concentrée. Là, il faut que la ration soit légère. Il faut qu'il y ait des petites pointes de paille ou de foin qui piquent les parois de la panse pour créer la rumination. Sinon, ça marche pas. Sinon, elles ont la diarrhée. D'ailleurs, quand on les met en champ le premier jour, si elles mangent trop d'herbes bien vertes, elles ont une diarrhée. Quoi. C'est pas normal.
Oui, tout à l'heure, vous avez commencé à nous parler un petit peu de votre démarche commerciale. Donc, apparemment, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes donc producteur, mais vous faites vous-même, vous démarchez pour trouver des nouveaux clients. Comment est-ce que vous procédez pour vendre vos produits?
C'est principalement une démarche de ma part. Je vais prospecter en faisant goûter mes produits. Mais j'ai aussi des gens qui m'appellent, des responsables de petits magasins qui me disent je voudrais bien vendre mon produit. Donc si c'est pas trop loin, on dit oui, si c'est sur notre tournée. J'ai démarché aussi les cantines scolaires autour de chez nous, plus des lycées sur la Tour du Pin. Et ça, c'est des tournées qui se font tous les 15 jours, mais qui sont pas toute l'année, bien entendu, c'est que quand il y a des écoles, de l'école. Hein. Mais disons que c'est principalement moi qui vais démarcher les supermarchés ou les petits magasins.
Vous ne faites aucune publicité
C'est vrai que nos produits marchent bien d'eux-mêmes, ils se font leur publicité eux-mêmes. Et je suis souvent surpris par le nombre de gens qui connaissent nos produits dans la région.
D'où viennent vos bêtes?
Alors, nos bêtes, elles naissent chez nous. Donc, on a suffisamment de vélages en permanence pour renouveler les vaches.
Combien de temps reste-t-elle à la ferme pour produire du lait?
En moyenne, c'est 5-6 ans. Il y en a qui restent une dizaine d'années, une douzaine d'années, et puis d'autres qui s'en vont au bout de 3 ans parce qu'elles ont un problème varié. Hein. Ça peut être une mamelle qui va pas du tout, ou qu'elles reprennent pas le veau. Donc si elles font pas un veau, il n'y a pas de déclenchement de la lactation.
Avez-vous un taureau?
Non, on n'a pas de taureau. C'est l'insémination artificielle, et j'ai un de mes associés qui s'occupe d'inséminer lui-même les bêtes. Avec de la semence qui vient de France, des États-Unis ou d'ailleurs.
Est-ce que vous avez des bêtes en location?
Oui, alors ça, c'est un volet un peu particulier. Un de mes associés a repris une ferme sur laquelle il y avait une location de 24 vaches. Donc nous, au lieu d'acheter 24 vaches ailleurs, on a continué ce contrat de location. On l'a même agrandi, ce qui fait que on n'a pas été obligé de sortir un capital pour acheter ces animaux. On paye une location par an, qui représente une jeune vache par lot de 10 vaches à fournir chaque année, hein, une jeune vache prête à la production. Ce qui nous a aidé à investir plus dans la fromagerie au moment où on avait beaucoup d'emprunts à faire pour construire le bâtiment, pour démarrer à zéro. Quoi. Enfin, pas à zéro, mais presque.
Avez-vous un contact particulier avec elle, avec les vaches?
Bien sûr, hein, si on est là, c'est qu'on est des passionnés. Hein, maintenant, c'est vrai que moi, je m'en occupe de moins en moins souvent, mais ça a été toute la première partie de ma vie, jusqu'à 45 ans dans les vaches tous les jours. Enfin, 362 jours par an pendant 25 ans, ça marque. Maintenant, d'autres ont pris le relais. Et puis, à plusieurs, on peut mieux prendre des week-ends ou une semaine de vacances. Quand on est trois, c'est plus pratique.
Quelles sont les principales difficultés rencontrées, tant sur le plan de l'élevage lui-même, et puis sur le plan économique, sur les aides éventuelles que vous avez pu avoir pour pouvoir vous installer, pour pouvoir faire perdurer votre entreprise?
Alors, c'est vrai que quand on a démarré notre projet en 2005, on a pu obtenir des aides à la construction pour la mise aux normes exigées par Bruxelles. Donc ça a représenté, je crois que c'était 18% du total de l'investissement. C'est pas énorme, mais bon, ça aide quand même. On s'est équipé aussi avec une chaudière à bois déchiqueté. Donc dans ce cadre-là, on a touché une aide européenne. Nos difficultés, c'est celles qui sont liées à tout élevage, c'est-à-dire qu'on travaille avec des animaux qui sont pas toujours en bonne santé. On travaille aussi avec la météo qui est pas toujours comme on l'aimerait, comme en ce moment, quoi. Enfin, ça va mieux, mais on a des problèmes de blé qui vont crever parce que trop dans l'eau. Et puis, on est aussi dépendant des prix qui sont décidés à Bruxelles, hein, pour la partie du lait qui n'est pas transformé, parce que j'ai oublié de préciser qu'on transforme qu'un cinquième, qu'un sixième du lait total produit. Ce qui est transformé, c'est moi-même qui fixe le prix, en fonction des concurrents, en fonction des négociations avec les supermarchés. Mais pour ce qui est du lait qui est vendu, en gros, c'est la fruitière de Demessin en Savoie. On nous paye assez bien, mais malgré tout, c'est Bruxelles qui décide, et là, c'est pas des prix bien hauts. Ça couvre juste les frais, enfin les coûts de production encore. Hein. C'est pas un métier où on gagne de l'argent, on vit, c'est tout. Il faut pas rêver, hein. C'est très exigeant. Il faut pas du tout diviser ce qu'on gagne par le nombre d'heures, parce que là on s'en va à courant. Hein. Donc, mais il y a un peu une embellie au niveau mondial. Là, on nous explique là, en 2014 qu'ils vont faire remonter un petit peu les prix de 10%, ce qui va permettre de qu'il y a un peu moins de suicides en France. Vous savez qu'il y a un agriculteur, un éleveur tous les 3 jours qui se suicide en France parce que tout le monde n'est pas dans une région comme nous, périurbaine, où il y a des contacts avec le restant de la société, où on peut avoir des activités à côté et où le fait d'avoir des voisins qui travaillent comme nous, ça nous permet de tenir, mais il y a des régions où c'est beaucoup plus difficile que nous. Nous, à la rigueur, on ne sera jamais coincé parce qu'on a le consommateur sur place. On peut toujours recréer des petites coopératives pour aller vendre près de chez nous. C'est un petit peu ce que je fais, moi, à mon niveau. Mais il y a le Massif central, le centre de la Bretagne, il y a des certaines zones à la montagne. Les problèmes sont beaucoup plus difficiles que nous. Hein, beaucoup plus.
Oui, alors donc, vous nous confirmez quand même, il y a un véritable problème dans le milieu agricole et paysan et agricole, du point de vue de la vie courante.
Alors là, il faut bien savoir comment ça se passe. Il y a des négociations d'il y a une cinquantaine d'années entre les divers pays mondiaux, et puis c'est Bruxelles qui a décidé, pareil, que les produits agricoles devaient avoir un prix bas, pour que tout le monde puisse en acheter. Donc il y a profusion de produits, vous voyez dans les supermarchés le nombre de yaourts qu'il y a. Mais seulement, donc, on est peu rémunéré, mais on a des aides de Bruxelles. Et en général, les aides correspondent à notre revenu. Mm-hmm. Notre comptable, chaque année, nous dit, voyez, si on enlève la colonne aide de Bruxelles, vous gagnez rien. On ne travaille pour rien. Mm-hmm. Mais ça, c'est voulu. Donc, on le sait à l'avance. Et il ne faut pas que vous ayez honte, vous, consommateurs, de payer par vos impôts à Bruxelles, parce que nous, sinon, c'est tout du lait qui viendrait de Chine ou d'ailleurs, ou de Nouvelle-Zélande. La viande viendrait toute d'Argentine. Donc, ces aides de Bruxelles nous permettent de tenir et de produire plus ici en Europe, quoi. Mais c'est tous des marchés mondiaux qui ont été passés et c'est comme ça, on le sait à l'avance.
Ça permet aux produits agricoles d'être pas trop chers, quoi, au niveau du consommateur.
Sinon, il faudrait rajouter. C'est des produits qui viennent de l'extérieur avec le coût du transport, avec la pollution du transport, etc.
Qu'est-ce que vous pensez de la place de la femme dans le monde agricole, soit quand elle est conjointe d'un exploitant, soit quand elle est elle-même chef d'exploitation?
Pendant très longtemps, elles ont été très mal valorisées, très mal considérées parce qu'elles étaient là à faire le travail en n'ayant pas la reconnaissance qu'elles avaient droit comme leur mari. Mais maintenant, ça a bien changé. Elles peuvent, au même type que nous, s'installer agricultrice, avoir les aides sans problème. Mais c'est vrai que ça a mal été reconnu, surtout par les retraites. Hein. Je sais pas si vous connaissez la hauteur des retraites agricoles. C'est dérisoire, c'est 500 euros pour des gens qui ont travaillé toute leur vie. Mais ça va mieux maintenant, oui, c'est vrai.
Oui, on a parlé de ce sujet ce matin et je précisais que c'est par la paysannerie, les femmes paysannes, qu'on a commencé à faire un pas en avant et que les femmes d'artisans et les femmes de commerçants ont suivi dans la même dans la même lignée, notamment pour la retraite, parce que ça, c'était vraiment important. Il y a beaucoup de femmes qui se sont retrouvées pratiquement sans revenus, alors qu'elles avaient travaillé toute leur vie à l'exploitation ou dans l'entreprise du mari, quoi.
Bien sûr. Non, mais pour moi, personnellement, c'est le plus grand reproche qu'on peut faire au syndicat, c'est de pas s'être occupé plutôt de ça. Hein. Moi, je connais des gens qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins quand ils sont dépendants d'une maison de retraite ou quelque chose comme ça. Donc, c'est des gros problèmes. S'il n'y a pas d'enfants pour aider, c'est très dur, quoi. C'est pas normal.
Dans quelques instants, la suite du reportage avec Richard Durand, exploitant agricole et producteur laitier à Saint-Victor-de-Cessieux. Vous êtes sur Couleur FM et à l'écoute de l'émission Fenêtre sur cour. Nous allons faire une pause musicale avec Georges Brassens.
Jamais sur terre il n'y eut d'amoureux plus aveugle que moi dans tous les âges. Mais faut dire que je m'étais crevé les yeux en regardant de trop près son corsage. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Le ciel avait pourvu des mille appâts qui vous font prendre feu dès qu'on y touche. La navette, tant que je ne savais pas, ne savait plus où donner de la bouche. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Elle n'avait pas de tête, elle n'avait pas l'esprit beaucoup plus grand qu'un dé à coudre. Mais pour l'amour, on ne demande pas aux filles d'avoir inventé la poudre. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Puis un jour elle a pris la clé des champs en me laissant à l'âme un mal funeste. Et toutes les herbes de la Saint-Jean n'ont pas pu me guérir de cette peste. Je lui en ai bien voulu, mais à présent j'ai plus de rancune et mon cœur lui pardonne d'avoir mis mon cœur à feu et à sang pour qu'il ne puisse plus servir à personne. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur.
Vous êtes sur Couleur FM et à l'écoute de l'émission Fenêtre sur cour. Alors pour revenir avec vous, Monsieur Durand, dites-nous, est-ce que votre vie privée ne souffre pas de tout ce temps passé auprès de vos vaches ?
Ça a été très difficile pendant une période où j'étais tout seul. Oui, c'est vrai que bon, ma femme et ma famille en subissaient les conséquences, mais on a tenu coup. Puis maintenant, ça va beaucoup mieux parce que on a des contacts avec l'extérieur, en vendant nos produits, on a des bonnes reconnaissances par rapport à notre travail. Mais mes enfants ne font pas ce métier, ça c'est clair. Donc on a quand même pas mal de jeunes qui viennent de l'extérieur, qui sont pas fils d'agriculteurs et qui viennent faire ce métier parce qu'ils sont passionnés par les animaux ou par les tracteurs ou par la culture. Pour faire ce métier, il faut être passionné. Sinon, quand on divise ce qu'on gagne par le nombre d'heures, alors là, ça, les gens ils sont en courant. Donc c'est qu'une histoire de passion. Après, oui, on peut aimer ce qu'on fait. Hein.
Vos vaches sont heureuses et vous ?
Mais bonne question. Mais moi, j'ai toujours été heureux parce que j'adore d'abord vivre ici. On est presque au paradis, vous voyez. Hein? Et puis, j'ai toujours aimé les animaux. C'est pour ça que j'ai réussi à convaincre mes associés en 2005 de vraiment leur créer un univers où elles sont bien. Donc, vous voyez la brosse là-bas, on va s'avancer. C'est une grosse brosse qui les masse et qui les brosse en permanence. Elles ne marchent pas sur le béton. Elles ont des tapis. Elles dorment sur des matelas. Elles ont des ventilateurs qui se déclenchent dès qu'il fait 25 degrés, parce qu'une vache, à 25 degrés, elle commence à souffrir de la chaleur. Nous, c'est 0 degré, elle, c'est 20 degrés. Nous, on est bien à 20 degrés, elles sont bien à 0 degré. Elles n'aiment pas la chaleur, elles préfèrent le froid, même moins 10, moins 20. Quand il n'y a pas de vent humide, elles sont bien. Donc quand on sait ça, quand on essaye de les mettre dans de bonnes conditions, bah, elles nous le rendent par un lait de bonne qualité. Pour qu'on puisse faire des économies d'échelle, pour qu'on puisse être 3 pour se remplacer pour les week-ends, il faut une centaine de vaches. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de la place suffisamment à côté pour qu'elles aillent en champ. Beaucoup, elles y vont dehors en mai, juin, juillet. Après, en août, septembre, elles y vont la nuit, mais il n'y a rien à manger. Elles mangent un tout petit peu d'herbe, enfin un petit peu, un quart de la ration en mai, juin, juillet. Mais c'est tout. On n'a pas assez de prés pour qu'elles puissent y aller tout le temps. Et surtout pas l'hiver, en tout cas. Et puis des jours comme aujourd'hui, même qu'il fasse très bon, comme c'est très mouillé, si on les met dehors dans un coteau, elles vont courir et il n'y aura plus d'herbe. Dans une heure après, il n'y a plus d'herbe. Donc vous voyez, nos vaches sont principalement nourries à l'auge, avec un mélange toute l'année de la même chose. C'est-à-dire, c'est un mélange de foin, d'ensilage de maïs, d'ensilage d'herbe, de grains de maïs, et puis un complément protéique qui vient d'Amérique, parce qu'il est bien moins cher que celui qu'on pourrait produire chez nous.
Et pourquoi la ferme des vaches heureuses ?
Ça m'est venu lors d'une visite de la commission pour la création de la zone du fromage Saint-Marcelin, dont on faisait partie il y a une vingtaine d'années. Il y avait une commission de spécialistes qui avait vu mes vaches et avait dit, bah, écoutez, vos vaches, elles ont l'air très heureuses. Et puis un jour, longtemps après, c'est en faisant du sport, parce que je fais beaucoup de sport, et en courant, je me suis dit, ben voilà, notre ferme, il faut l'appeler comme ça, ça va choquer un peu, mais au moins ça va accrocher. Et en effet, mes associés ont été d'accord, ça marche bien au niveau commercial. Et ça reflète l'état d'esprit qu'on a par rapport aux animaux. On essaye de les mettre dans de bonnes conditions pour qu'elles vivent, vous voyez, comme c'est calme. Parce qu'il y a aussi une question de sociabilité dans le nombre d'animaux. Jusqu'à 30 vaches, ce que j'ai toujours eu avec mes parents, il y avait la chef, la souffre-douleur, la curieuse, enfin bref, là, il n'y a pas de hiérarchie. Elles sont toutes, elles se connaissent pas, en fait. Quand on dépasse 60 vaches, elles se connaissent pas. Pas assez pour avoir des vengeances. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de recoin où elles peuvent se faire coincer. Les nouvelles s'acclimatent très très vite. Alors que vraiment, 20, 30 vaches, alors là, il y a la chef qui vient vous embêter, qui vient vous lécher, ouais. La curieuse qui veut savoir ce qui se passe, la souffre-douleur, enfin bon, voilà.
Donc elles sont pas racistes.
Non, elles sont pas racistes. Alors, elles ont plus de cornes. Et ça, les cornes, elles se brûlent quand elles sont toutes petites. Oh, elles souffrent une minute, pas plus. Oh. On brûle la base où la corne pousse. Mais bonne nouvelle, par la génétique, par le croisement génétique, ça a commencé il y a déjà 2 ans, il existe un rameau de bovin sans cornes qui, grâce à la sélection, c'est-à-dire que ces animaux porteurs du gène sans cornes ont été croisés avec d'autres animaux non porteurs et à force de croisement, petit à petit, on peut affirmer que d'ici, je sais pas, une vingtaine, une trentaine d'années, les bovins n'auront plus de cornes pour ceux qui le voudront, parce que je suis sûr qu'il restera des rameaux ou des irréductibles qui voudront des cornes. Il faut savoir que c'est dangereux. Les vaches qui ont des cornes entre elles, elles peuvent se blesser. Donc, c'est préférable qu'elles n'en aient pas.
Une simple petite question rigolote. Est-ce que vos vaches ont un prénom ?
Bien sûr, madame, elles ont toutes un prénom. Qu'on a essayé, mes parents et moi, de faire correspondre le prénom d'une mère avec sa fille, sa petite-fille, ou avec le père. Et bien sûr, il y a des histoires de famille, il y a des histoires de vaches. Je pourrais vous en parler pendant longtemps. Bien sûr. Les animaux s'y attachent, c'est évident, hein. Bien sûr, elles n'ont pas que des numéros. Elles ont besoin de toutes 2 plaques avec des numéros, 2 boucles à chaque oreille. S'il en manque une, on peut être pénalisé. S'il en manque une, on peut nous enlever une partie de nos aides. Attention, hein, c'est très rigoureux. Ah, mais oui. Et dès le premier jour de la vie, il leur faut faire un trou aux oreilles pour mettre leurs boucles. Et on a un contrôle laitier chaque mois pour qu'il vienne peser ce qu'elles font comme lait, analyser le taux de matière grasse, le taux de matière protéique, la qualité sanitaire du lait, ça au niveau juste pour nous, pour voir quelles sont celles qui sont bonnes en matière grasse, celles qui font beaucoup de lait. On est aussi analysé par la laiterie pour nous payer suivant la qualité. Et rares sont les mois où on n'a pas de pénalité sur le prix de base. Le prix de base, il est pour un lait de telle qualité, mais après, si on ne respecte pas ces qualités, on nous enlève les centimes. Donc c'est très rare qu'on soit au prix affiché. Parce qu'il n'y a pas assez de matière grasse, ou il y a un petit peu trop de cellules. Les cellules, c'est s'il y a quelques-unes qui ont la mammite, donc ça fait baisser le taux moyen. Donc il faut tout le temps être dans les clous, et c'est pas facile.
Est-ce qu'à la traite, elles ont de la musique ?
Non, elles n'ont pas de musique à la traite, mais moi, je connais bien les vaches. Elles n'ont pas besoin de musique. Elles ont la radio pour la traite. C'est pour le vacher, c'est pour celui qui traite. Mais bon, ça les amuse, c'est tout. C'est tout.
Elles sont pas sensibles à la musique, alors.
Si, sûrement, mais ce qui compte, c'est qu'elles soient... c'est qu'on les dérange pas. Ouais. Elles font leur petite vie. Elles aiment pas le changement. Elles aiment pas le changement d'heure. Elles aiment pas le changer de prairie. Elles aiment pas changer de vacher. Pourvu qu'on les maintienne comme ça, qu'elles aient bien à manger. Elles font les 3-8 quand même, hein. Ah ben, 8 heures à manger, à ruminer, 8 heures à se promener et 8 heures à dormir. Elles dorment peu, les vaches, en fait. Mais elles dorment n'importe quand. La nuit, elles y voient. Donc la nuit, elles font comme le jour. Elles vont manger, elles vont se promener. Et elles dorment un peu, mais elles dorment aussi beaucoup la journée.
J'ai l'impression qu'elles fouillent là, qu'elles cherchent un produit qui est meilleur que l'autre.
Oui, elles recherchent les grains de maïs, oui, bien sûr, sans gourmand. Mais comme on mélange bien avec une machine industrielle, là, une machine qui prend les aliments, qui les mélange et qui les distribue très rapidement. Une machine qui peut mélanger, par exemple, un hiver, elles ont un peu la grippe, on voit qu'elles ont un peu la grippe. On leur donne quelques grammes d'aspirine, la machine mélange quelques grammes par kilo d'aliments, quoi, ça va bien. On est obligé de se mécaniser à un minimum.
Vous avez la télé pour surveiller tout ça? Non, pas la télé, une caméra.
Non, on a une caméra sur la machine, oui, pour reculer. Mais pour surveiller nos vaches, non, on y est. Vous voyez, mon associé vient de passer tout à l'heure, parce que je ne vous ai pas parlé du racleur automatique. On a un système qui ramasse les bouses et qui les emmène au fond. Et puis après, ce racleur, il revient tout doucement. Vous voyez, il ne fait pas beaucoup de bruit, on l'entend là. Et puis elles mangent sur une immense fosse à lisier qui fait 66 mètres de long, 2,60 mètres de haut et 3 mètres de large, qui stocke les déjections pendant 3 mois. Et après, on va les épandre dans les champs.
Elles ont aussi des super brosses pour se brosser le dos.
Oui, on va aller voir. J'adore la brosse. D'ailleurs, quand elles sont, avant de faire leur veau, elles passent un mois et demi dehors. La première des choses qu'elles font quand elles reviennent avec le troupeau, hop, elles vont vite se faire brosser.
Elles sont comme vaches qui pissent, tiens.
Une vache, ça peut boire jusqu'à 100 litres d'eau, hein, 100, 120 litres d'eau l'été quand il fait bien chaud. Et puis aussi, elles mangent une cinquantaine de kilos d'aliments et elles produisent en moyenne entre 25 et 30 litres de lait par jour. Donc,
ça s'appelle comment, celle-là ?
Alors, la race, c'est la Prim Holstein, P-R-I-M, apostrophe, Holstein, comme la région d'Holstein en Allemagne, H-O-L-S-T-I-E-N.
Son prénom.
Ah, mais moi, je ne la connais plus, moi, les vaches. Hein. Moi, je connaissais du temps quand j'y étais, moi, mais il faudrait demander à Damien, il les connaît toutes, hein. Ça, c'est clair.
Vous ne leur faites pas passer un train devant votre bâtiment pour les amuser?
Non, elles n'ont pas besoin, elles sont au soleil, elles sont bien.
Alors, on vous rappelle l'adresse, donc à Saint-Victor-de-Cessieux. C'est peut-être un petit peu compliqué à trouver, mais c'est très bien fléché. Si vous avez un bon GPS, je vous conseille de brancher aussi votre GPS. Alors, vous trouverez là-bas, mais alors, des produits excellents, depuis les yaourts nature, les yaourts aux fruits, les yaourts aromatisés, les fromages blancs, faisselle, la crème, la bonne crème, pas très light. Vous trouverez aussi le beurre salé pour accompagner vos fruits de mer et surtout l'accueil et le sourire de Monsieur Durand. Mais au fait, une de ces vaches ne s'appellerait-elle pas Marguerite, Guylaine ?
Eh oui, c'est ce qu'on s'est laissé dire. Vous savez qu'on a une petite tradition sur Fenêtre sur Cour, à Couleur FM. Chaque mois, on vous fait entendre une voix qui a compté, qui compte encore. Alors, pour rester dans la thématique, on a rendez-vous aujourd'hui avec Marguerite et accessoirement Fernandelle.
Guylaine, c'est une bonne vache, ta vache.
Ah, c'est mieux que ça. Marguerite, c'est une bonne copine. Marguerite, c'est mon passe-partout. C'est une invention à moi. Nous avons fait près de 200 km à pied, tous les deux, bras dessus, bras dessous, sans aucun accrochage.
Ce spectacle est fini pour ce soir. Passons à d'autres attractions.
Alors, on termine encore avec une petite partie agenda. Si vous aimez la musique, le samedi 10 mai dans les jardins du Millénium à 21h, il y a un concert participatif dans le cadre de la commémoration de l'abolition de l'esclavage avec René Lacaille et Marmaille. Et c'est de la chanson traditionnelle créole avec de l'accordéon, c'est entrée libre. Et le vendredi suivant, toujours au Millénium, vous avez une soirée jazz à 21h, donc on vous engage à aller écouter de la musique.
Et à Bourgoin-Jallieu, du 17 mai au 18 mai 2014, à l'occasion de la Nuit des musées et de Musée en fête en Isère, le musée donc vous propose de découvrir en famille l'exposition temporaire de manière festive. Donc je vous rappelle quand même que l'exposition temporaire, c'est autour d'Alfred Belay du Poisat, qui est un peintre bergusien.
Ensuite, vous pouvez également vous rendre à l'espace culturel Georges Sand à Saint-Quentin-Fallavier du 13 au 30 mai pour une exposition sculpture et peinture Yaya Traoré et de Jean-Paul Gaultier.
Alors, si le 17 et le 18 mai, vous avez un petit peu de temps, vous avez le troisième marché de la création spéciale Fête des Mères à Ruy qui se tient de 14 à 19 heures. Et puis, le même week-end, vous avez la compagnie La Boîte à Trucs qui fête ses 20 ans. Et c'est un spectacle intergénérationnel à la salle Bellavoine de Villefontaine. Et il y a plein de trucs gratuits, donc allez faire un tour.
Et du blues à Bourgoin-Jallieu aux abattoirs avec Johnny Winter le 23 mai. Voilà.
Le 23 mai également, n'oubliez pas que c'est la fête des voisins. Donc si vous avez des voisins sympas, c'est le jour d'aller leur faire la bise.
Voilà, et le 24 mai, vous avez le Blues Café Party dans les jardins du Millénium de l'île d'Abeau avec 5 formations internationales qui représentent tous les courants du blues actuel.
Au revoir. À bientôt.